En sol majeur vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Pour s'embarquer sur le petit voilier de Jean-Marie Blas de Reblès, de quoi a-t-on vraiment besoin ? D'une simple bouteille de rhum, peut-être, et puis d'un père énorme, ni pied noir, ni français, ni espagnol. Avec son nouveau roman intitulé « Dans l'épaisseur de la chair », Blas de Reblès nous offre une escapade littéraire dans l'intime la plus reculée de sa Méditerranée. Escapade en forme de noyade, l'archéologie de l'histoire et des sentiments n'étant jamais très loin pour ce voyageur, né dans l'Algérie française de 1954. Bonjour Jean-Marie Blas de Reblès.
Bonjour Yasmine.
Quelle langue écrivez-vous l'amour ?
Ah, question difficile. Est-ce que l'amour s'écrit ? C'est vraiment la chose, le sentiment qui est au-delà du langage. Pour moi, l'amour, c'est sans langage, justement. C'est le langage du corps, c'est le langage direct de l'esprit.
Et pourtant, ce roman dont on va parler est une vraie déclaration d'amour d'un fils à un père.
Pour le coup, là oui.
Alors vous êtes effectivement allé à la pêche, si j'ose dire, dans ce nouveau roman, avec au bout de l'hameçon un gros poisson. Et ce gros poisson, bah, c'est ce père de 90 ans que le fils tanne pour qu'il se raconte à coups de julienas. C'est un vin rouge, hein, je crois. Seulement un soir, il y a un verre de trop.
Comment il en est venu à me lâcher son nuage d'encre dans la figure, je ne m'en souviens pas. Sans doute après l'une de mes questions trop insistantes sur la guerre d'Algérie, ou un commentaire jugé partial. Son visage s'est fermé pour me signifier que j'étais allé trop loin, que ce n'était plus la peine de discuter avec moi. Prenant à témoin ma mère et mes propres enfants, il a dégoupillé, comme en passant, une grenade à fragmentation. Toi, de toute façon, tu n'as jamais été un vrai pied noir.
Toi, de toute façon, tu n'as jamais été un vrai pied noir. Est-ce que c'est ça, cette phrase dégoupillée comme ça un soir de Julienas ? Est-ce que c'est ça le vrai point de départ du roman ?
C'est exactement le point de départ. C'est une phrase qui a été réellement prononcée par mon père et qu'elle m'ait fait mal, qu'elle m'ait humilié, m'a surpris. Parce que s'il y a quelque chose où j'ai jamais mis mon honneur, ni ma gloire, c'est d'avoir été un pied noir. Et ça déclenche toute une recherche, sinon sur mon identité, en tout cas sur ma place dans la mémoire paternelle, dans la mémoire familiale.
Donc il y a des similitudes effectivement entre votre réel et ce roman, mais vous avez baptisé par exemple vos personnages d'un autre patronyme que le vôtre, et donc je peux vous poser la question finalement, est-ce que cet arrière-grand-père qui ouvre le récit familial, Francisco Cortés, était un vrai pied noir, et pourquoi est-ce qu'il a quitté son Andalousie pour Sidi Bel Abbès, en Algérie, dans l'Algérie française?
Lui n'était pas encore ni un vrai pied noir, ni un faux pied noir, ni un pied noir du tout. C'était simplement un immigré espagnol qui a quitté dans les années 1860 son Andalousie natale, comme des milliers d'autres Espagnols d'Andalousie, ou d'Italie, ou de Maltais, ou de Sicile. Et il se trouve que ça coïncidait avec la colonisation de l'Algérie par la France.
Et qui démarre en 1830.
Qui démarre en 1830. La France a colonisé l'Algérie. Il n'y a pas un Français qui veut aller travailler la terre en Algérie, affronter les maladies, le Sirocco, etc.
Il faut le dire, oui.
Et donc on fait venir une main-d'œuvre étrangère, en l'occurrence des Espagnols.
Et donc on suit la saga, on va dire, de Francisco, donc l'arrière-grand-père, de Juanico, le grand-père, et puis de Manuel, finalement, le père du narrateur, donc à Sidi Bel Abbès, qui est une ville de garnison à l'époque, Sidi Bel Abbès, qui est surnommée d'ailleurs Biscuitville. Hein. Est-ce que ces trois générations de Cortés savent que, je cite, leur monde est construit sur un terreau de haine ?
Absolument pas. La génération qui sait cela de source sûre et pour l'avoir cherché, c'est la mienne. Mais c'était des Espagnols qui vivaient dans une Algérie espagnole, l'Oranie, où tout le monde parlait espagnol, où les indigènes, comme ils disaient à l'époque, on les voyait pas trop, puisqu'ils étaient dans leur village nègre, vous vous rendez compte, les termes employés, et ces gens étaient dans leur pays. On était là depuis toujours, et on y resterait pour toujours.
Dans l'épaisseur de la chair est un roman, moi, qui m'a remué, je dirais, en tant que fille de couple franco-algérien, car effectivement, les colons que vous y décrivez, Jean-Marie Blas de Robles, ne sont pas tous donc de gros propriétaires venus casser du bougnoul. Et puis aussi parce que vous jetez un regard sur les conquérants eux-mêmes, qui se retrouvent là en fait en terre inconnue, et qui ont la sensation, vous le racontez très bien ça, de marcher dans les pas de Rome. Vous écrivez cette phrase, cela peut sembler incroyable, mais les militaires français ont conquis l'Algérie dans une nébulosité romaine.
C'est invraisemblable et pourtant je l'ai observé de très très près par mon travail d'archéologie et par un travail de recherche sur les sources, les carnets militaires, des généraux, des Bugeauds et consorts, qui étaient des lettrés, qui connaissaient leur Salluste sur le bout de la langue, les textes correspondant à la 3e Légion Auguste, lorsque les Romains se sont mêlés de conquérir la Numidie, la Maurétanie, etc., pour en faire l'Afrique romaine. Et alors, ce qui est curieux, c'est que les militaires français se sont fondus dans l'esprit romain, et ils étaient là pour refaire l'Empire romain, et ils retrouvaient les traces des passages des Romains dans les mêmes redoutes, parce qu'il n'y a pas 36 façons pour résister à une guérilla, il faut être sur une éminence, donc ils allaient sur cette éminence, et là, chaque fois, ils voyaient un fortin romain. Ils étaient vraiment sur les traces de ces légionnaires.
Donc roman très très documenté, on revit par exemple le drame des tribus Beni Hammer, dépossédées de leurs terres par l'État français, on revit les premiers pogroms anti-juifs, et alors j'apprends sidéré qu'en 38, Sidi Bel Abbès inaugure ce qu'elle appelle la fête de la race. On revit évidemment le décret Crémieux qui en 1870 accorde la citoyenneté française à 35 000 Israélites indigènes d'Algérie. Et justement, on se pose la question pour la généalogie des Cortés, comment est vécu ce décret Crémieux par la communauté espagnole ?
En tout cas, dans la famille Cortés, chez le grand-père Juanico dont vous parliez tout à l'heure, qui est un illettré, qui est un alphabète, qui, après toute une vie de labeur, n'a juste qu'un petit bar à légionnaire avec 3-4 tables, il est antisémite. Et il ne sait pas pourquoi, parce que ses meilleurs amis sont juifs. C'est avec eux qu'il tape la belote tous les soirs. Mais il est antisémite parce qu'il se souvient que Isabelle la catholique a mis les juifs dehors d'Espagne. Il ne sait plus trop quand. Et donc, ce n'est pas normal que les juifs là reprennent du poil de la bête. C'est pour des raisons aussi idiotes que ça, mais qui montrent aussi à quel point les inimitiés, les haines rentrées entre communautés peuvent prendre leur source très très loin en amont.
Je crois que Carlos Gardel arrive à point nommé Jean-Marie Blas de Robles. Qu'est-ce qu'il fait revivre comme ça rapidement ce chanteur argentin chez vous ?
Alors ce chanteur argentin, c'est l'amour de mon père, mon vrai père, pour ces tangos et cette nostalgie qui s'en dégage. Et depuis que j'ai appris que c'était un Toulousain, en fait, qui n'a jamais été argentin, que c'est un imposteur fini, il me plaît encore plus.
Thank you.
necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la adore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran esa pampa, le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí la puñalada y de senos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme si ahí nomás no la maté.
I
E com indigène.
Les indigènes, au vrai, c'était comme les oiseaux dans le film d'Alfred Hitchcock. Ils faisaient partie du paysage. On ne les remarquait pas tant qu'ils se comportaient selon ce qu'on attendait d'eux. Mais un jour, voilà que leur nombre croissait sur les fils télégraphiques, puis qu'une mouette fonçait sur vous sans raison apparente. Une nuée de merles envahissait votre demeure. On retrouvait son voisin, les yeux crevés. Venus d'on ne sait où, des centaines de corbeaux se mettaient ensuite à attaquer les enfants. Des stations d'essence explosaient. Les cabines téléphoniques devenaient des pièges mortels et silencieux. D'autres attaques, d'autres morts. On se barricadait chez soi, la peur au ventre, avec la certitude qu'une malédiction punissait la ville d'une faute très ancienne, jusqu'au moment où l'on était contraint de fuir, de s'échapper lentement sous le regard haineux de ces milliers d'oiseaux enfin visibles qui vous chassaient sans recours de leur territoire reconquis.
Hitchcock, au pays de la guerre d'Algérie, c'est page 244 du nouveau roman de Jean-Marie Blas de Robles, Dans l'épaisseur de la chair, aux éditions Zulma. Donc on est bien dans un texte qui revient très documenté sur cette page d'histoire de la colonisation française en Algérie, mais on est bien au pays de la fiction.
Bien sûr, sans même faire référence à Hitchcock.
C'est une belle métaphore, hein, quand
on
même.
On est dans de la fiction. Il faut bien qu'on comprenne que le Manuel Cortés de ce livre, même s'il est inspiré de mon père, il a aussi peu d'existence qu'Athanase Kircher. C'est un personnage inventé, c'est un personnage qui a été retravaillé par la fiction et par l'écriture comme les autres.
Mais ce Manuel Cortés a quand même la vertu d'interroger l'histoire. On y revient une seconde, parce que ce père raconté par son fils, on dira comment dans quelques minutes, et donc je le rappelle, un fils d'immigré espagnol qui vit dans cette ville de garnison de Sidi Bel Abbès, dans cette Algérie française. Il est devenu chirurgien, et puis il est volontaire aux côtés des Alliés en 1942, et puis il tombe sur cette fameuse page d'histoire du 8 mai 1945 à Sétif, je rappelle, répression contre les nationalistes algériens qui souhaitent faire entendre leur cause alors que la France est en train de célébrer
sa victoire.
La victoire des Alliés. Et là, vous écrivez, Jean-Marie, « Mon père a assisté au massacre de Sétif. Il n'a rien fait. » Il n'a rien fait, mais ce qui ne l'empêche pas, on le vit à ses côtés, d'avoir des amis musulmans. Et au fond, la question qu'on se pose, c'est dans quel camp est-il à ce moment-là de l'histoire ?
C'est la question la plus compliquée. Parce que il n'y a pas encore de camp. C'est que les Français d'Algérie se rendent pas du tout compte qu'il puisse y avoir des camps. Ils sont, eux, chez eux, les Français d'Algérie. Les indigènes ne sont que des indigènes qui vont devenir français peut-être un jour s'ils le méritent, si... Mais ça ne fait pas encore le moindre doute dans leur esprit. Et en plus, ils viennent de gagner la guerre. Et mon père, c'est quelqu'un qui a eu du mal à me raconter tout ce qu'il m'a raconté. On vient le chercher en lui disant, on a besoin d'un médecin, il y a des troubles acétifs, venez. Mais bon, il part, il obéit aux ordres. Et il se retrouve à assister à certains des massacres de Sétif où l'armée française, en l'occurrence la Légion, sur des jeeps équipés de mitrailleuses, tirait à vue sur les Algériens sans demander quoi que ce soit. Donc c'était un véritable massacre. Et ça a assez choqué mon père pour qu'il me l'ait raconté en disant qu'aujourd'hui, il s'en voulait de n'avoir rien fait à l'époque.
Oui, mais effectivement, c'est à la lumière du temps qui est passé. Il n'y a pas de camp, dites-vous, il y a juste des attentats, si j'ose dire, commis par, d'un côté, l'OAS et de l'autre, le FLN. Et votre père fait partie de ces Français d'Algérie pris en tenaille entre ces deux factions, on va dire.
Là, c'est déjà beaucoup plus tard. Là, oui. Mon père, en tant que chirurgien à Sidi Bel Abbès, il s'est retrouvé, pour le coup, entre les deux camps, puisque on lui a amené des blessés de l'OAS et on lui a amené aussi des blessés du FLN qu'il normalement aurait dû laisser mourir parce que c'était ce que l'OAS préconisait, mais il les soignait quand même. Et du coup, il était sur la liste noire des deux camps et obligé de changer de domicile tous les soirs pour protéger sa vie.
Alors l'arrivée en France en tant que rapatrié d'Algérie va être terrible puisque ce statut de pied noir l'empêche de travailler pendant un long moment. Et vous avez cette phrase sur laquelle je laisse les auditeurs méditer. Les pieds noirs sont les boucs émissaires du forfait colonialiste. Alors évidemment, ce départ de l'Algérie en bateau est gravé dans la tête de ce petit garçon de 8 ans devenu le narrateur. Et parenthèse de taille, qui n'en est pas une, le narrateur qui fait revivre toute cette saga est en fait un homme prisonnier des eaux. Il raconte l'histoire des Cortés en étant prisonnier de la mer.
Ou même en train de se noyer pratiquement. Donc c'est les... On a vu au début de cette discussion que le personnage est vexé parce que lui dit son père « Toi, tu n'es pas un vrai pied noir. » Et ce narrateur prend le bateau de son père et il part faire une partie de pêche un 24 décembre au large. Et voilà, je vous la fais courte, oui. Mais il tombe à l'eau et il n'arrive pas à remonter sur son bateau. Donc
qu'est-ce que ça symbolise alors, ça ?
Ça symbolise bien sûr la façon dont le fils essaye de remonter sur le bateau de son père, c'est-à-dire de récupérer la mémoire familiale, la mémoire de son père, et par là même sa propre identité. Alors, pied noir, pas pied noir, espagnol, pas espagnol, français, pas français, la mère italienne, napolitain aussi un petit peu, 700 ans d'occupation de l'Espagne par les Maures, un peu arabes certainement, mais il y avait des juifs aussi, un peu juifs aussi, j'espère. C'est tout ça qui revient. Et
c'est un liquide amniotique.
Exactement.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. Thank you. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker? We kill the flame. Lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Leonard Cohen en sol majeur avec au fond sur le bastingage, on le reconnaît, hein, Jean-Marie Blas de Robles, auteur qui prend le large et qui mouille le maillot d'ailleurs pour cette histoire des Français d'Algérie, très joliment portée par sa plume, dans l'épaisseur de la chair, son nouveau roman. Et du coup ça embaume un peu hein, dans notre studio parisien, on a les gueules de loup, les becs de grue, les immortels, on les imagine, hein, toutes ces fleurs qui entouraient sa villa d'Alger, avant le rapatriement, avant la déchirure, avant la fin de l'Empire français. Le pire étant passé, le meilleur est à venir, je crois, avec un Jean-Marie Blas de Robles qui tricote sa vie et ses philosophies entre plusieurs casseroles et plusieurs mondes. Alors justement, à quel moment vous avez souhaité, un peu comme votre père d'ailleurs, faire philo, c'est-à-dire devenir un raté, un menjakaga, qu'on traduira par...
Un mange-merde. Un raté, un loser.
Un mange-caca.
Un mange-caca. J'ai toujours voulu écrire, en fait. C'est quelque chose qui m'a pris vers l'âge de 12-13 ans. Et lorsque j'ai découvert la philo en terminale avec un professeur absolument magique qui m'a fait découvrir les Grecs, l'Antiquité grecque, les présocratiques, Platon. Donc c'est tout un ensemble qui fait que je me suis dit, moi c'est de la philosophie que je veux faire, je veux ouvrir mon esprit, je veux comprendre le monde. Et bien sûr, mon père était opposé à ce genre de choses, ce qui est très étrange, alors que j'ai appris 80 ans plus tard que c'est ce qu'il voulait faire quand il était jeune.
Tout est normal.
Au lieu de faire médecine. Mais donc c'est vraiment par goût que j'ai choisi la philo, et tout en me disant que c'est quelque chose qui aiderait mon travail d'écriture.
Un travail d'écriture qui est nourri de toutes vos langues, hein. Il y a du français, de l'espagnol, il y a même peut-être même du patouette. Qu'est-ce que c'est que le patouette, rappelez-nous?
Le patouette, c'est le créole des Français d'Algérie. C'est un français, entre guillemets, mal parlé, où on mélange des mots d'espagnol, des mots d'italien, des mots de maltais. Oui, c'est un créole qui est bien sûr aujourd'hui complètement perdu, qui avait cours surtout dans l'algérois.
Vous savez que mon seul regret en sol majeur, ce sera de ne pas avoir un petit bout du cid en patouette.
Je ne sais pas si Edmond Bruat, l'auteur du Cid en patouette, mérite encore de passer sur les radios, mais la plupart des pieds noirs en connaissaient au moins une ou deux répliques.
Vous êtes un vrai pied noir ou pas finalement?
Non, j'ai mis tout un roman pour dire que je n'étais pas un vrai pied noir.
A.
A. Comme. Atlas.
Et oui, on peut vous aussi raconter votre vie, Jean-Marie Blas de Robles, en parcourant un petit peu nos atlas d'écoliers, parce que vous avez vraiment beaucoup bougé après l'Algérie française que vous quittez en 62. Il y a la France, le Var notamment, et puis après vous avez pas mal bourlingué. Vous faites donc philo à la Sorbonne, puis vous faites histoire au Collège de France, et là vous partez, notamment enseigner au Brésil, où vous allez ramener la matière de Là où les tigres sont chez eux, qui a été prix Médicis 2008. Vous vous barrez en Chine populaire et vous en ramenez sans doute la matière pour Rituel des dunes. Et puis, à partir de 86, et là, il faut qu'on s'arrête une seconde, dans le désert peut-être, vous vous rendez en Libye, dans la Libye de Muammar Kadhafi, pour y faire quoi?
Pour y être archéologue sous-marin dans l'équipe de la mission archéologique française en Libye. C'est un hasard absolu qui tient à mon amitié avec un autre pied noir.
Ça fouille hein, chez les pieds noirs hein, quand
oui,
même.
Oui. Mais bon, c'est vraiment un ami d'enfance, Claude Saint-Aise, qui est archéologue bien connu, directeur du musée archéologique d'Arles, etc. Et c'est lui qui m'a demandé un jour, en 85, si ça m'intéressait de participer aux fouilles archéologiques sous-marines en Libye qu'il allait débuter l'année suivante.
Alors qu'est-ce qu'il y a comme merveille dans les fonds sous-marins de cette région?
Alors, c'est quelque chose que personne n'imagine. Vous savez que Cyrène, la ville qui donne son nom à la Cyrénaïque, Shahat, aujourd'hui en Libye, a été l'égal d'Athènes au 6e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il en reste des ruines telles que vous pouvez vous y perdre aujourd'hui, pour vous dire la grandeur de ces vestiges. Et il y a eu un affaissement géologique dans cette région qui fait que le port de cette ville, de Cyrène, qui s'appelait Apollonia, s'est petit à petit enfoncé dans la mer. Et donc le travail de l'équipe archéologique sous-marine a été chargé d'étudier ce port immergé de la ville d'Apollonia.
Alors quelle est la plus grande merveille que vous ayez découvert de cette cité d'Apollonia?
La plus grande émotion en fouillant des viviers romains antiques, des piscines de luxe où les Romains élevaient des poissons dans l'Antiquité. Et il y a un moment où on s'est mis à vider sous l'eau cette piscine remplie de galets, de marbre. Et au bout d'un quart d'heure, un galet ne se décelait pas du sol. Et c'était la tête monumentale d'un Ptolémée du 3e siècle avant Jésus-Christ. Une merveille. Et là, je peux vous dire qu'avant même de commencer à la sortir, cette belle tête, il a fallu qu'on se pose sur le fond et qu'on ferme les yeux et qu'on maîtrise notre respiration pendant à peu près 10 minutes, tellement l'émotion était forte de faire cette trouvaille.
Ça en dit long sur l'histoire de l'identité de cette région en Libye.
Comme toutes les identités, elles sont faites d'un milliard de passages. C'est la même chose pour la Libye. La Libye, vous savez que c'était même le nom générique donné par Hérodote pour toute l'Afrique du Nord. Donc les Algériens, pour Hérodote, c'était des Libyens, les Tunisiens aussi, les Marocains aussi.
Ce que je vois, c'est que vous, malgré les scorpions dans les chaussures et les serpents dans les draps, vous avez un réel engouement pour l'archéologie. Comment vous l'expliquez?
Mais c'est la passion d'écrivain d'abord, une passion. Et l'archéologie m'intéresse comme passion secondaire, comme aventure de l'esprit, comme plongé dans les strates de la mémoire justement humaine. Et par l'archéologie, vous retrouvez la totalité de l'humain. Vous retrouvez jamais juste une communauté ou une race, entre guillemets. Vous retrouvez l'homme avec un grand H.
Pour quelqu'un qui a été arraché à sa terre natale en 62, c'est quand même quelque chose de très très parlant. Est-ce que vous pensez que Éric Satie, notre cher Éric Satie, est parti un jour en Orient ?
La vérité, c'est que je n'en sais rien du tout. En fait, je ne crois pas qu'il ait voyagé en Orient. Je pense que c'était
un vieux garçon qui a fini très pauvre. Hein.
Oui, qui a fini très pauvre à Arcueil.
Mais Abed Azriyeh, en revanche, ce grand musicien que vous aimez, je crois, d'origine syrienne, si
absolument,
je ne m'abuse, a accueilli Satie. Et c'est ça que vous aimez.
C'est ce que j'adore, justement. C'est ce mélange, cette façon de s'accueillir les uns les autres. Et Abed le fait merveilleusement avec Éric Satie.
Je ne sais pas si vous souhaitez véritablement participer, parce que vous êtes un auteur, un écrivain tourné vers la fiction, pas du tout vers le militantisme. Je ne sais pas si vous souhaitez participer au devenir du monde, Jean-Marie Blas de Robles, mais ce débat sur qu'est-ce qu'être français n'a pas laissé votre plume indifférente. Vous avez répondu à cette question par une autre question. Ça a été l'objet d'un texte publié dans l'ouvrage collectif « Je est un autre pour une identité monde » paru chez Gallimard. Et cette autre question, c'est effectivement « Qu'est-ce qu'un Romain ?»
Exactement. Alors bien sûr, c'est une métaphore et c'est une question qui n'a jamais été sans doute posée avec le même cynisme qu'elle nous a été posée à un moment donné, il y a quelques années.
Par Nicolas Sarkozy.
Par Nicolas Sarkozy en particulier. Donc je me suis amusé à regarder dans la romanité, dans l'Algérie romaine de l'époque, qu'est-ce que ça pouvait signifier, qu'est-ce qu'un Romain. Et c'est étonnant de voir à quel point on peut regarder en miroir les deux époques. Et on trouve des textes de Juvénal, par exemple.
Redites-nous qui est Juvénal.
Juvénal, un écrivain romain, satiriste, bien connu de l'époque un peu antérieure à Apulée.
Bien connu des archéologues quand même.
Et qui vitupérait l'époque en se plaignant de tous ces émigrés qui arrivaient et qu'on n'était plus chez soi et tout ça. Et on est là, il y a 2000 ans, quoi, avec les mêmes mots pratiquement que ce qu'on entend encore aujourd'hui. Mais à l'époque, les immigrés, c'était les Grecs. Et à l'inverse, à la même époque de Juvénal, avec ce type qui voulait vraiment qu'on soit tous romains, et pour être romain, il fallait être né sur le Quirinal, il y avait une histoire de terroir, et ce en quoi il se trompait complètement, puisque la romanité, à la même époque, elle était faite d'autres identités qui enrichissaient cette romanité, en particulier la colonie romaine d'Afrique du Nord, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie. On avait des personnages comme Apulée, qui écrivait en romain, mais qui était d'origine
algérienne.
Algérienne, bien sûr. À l'époque, on disait numide. Et Apulée lui-même se parle de Cyrus en disant Regardez Cyrus, là, votre empereur de Perse. De quoi il est fait, Cyrus? Il n'est pas perse. C'est un mélange de Kurdes et d'Arméniens. Et voilà, il n'y a pas de pureté, et heureusement...
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
En plus.
Est-ce que vous, Jean-Marie Blas de Robles, vous avez déjà douté de votre identité?
Non, douter, non, je ne crois pas qu'on puisse douter de son identité. Je crois que on sait tous qui nous sommes, au fond. On est d'abord notre langue. Je me sens français, réellement, par ma langue. Mais en même temps, et avec autant de force, comme à Pulé, je me sens espagnol, je me sens italien, je me sens algérien, je me sens méditerranéen. Avec autant de force, et ça ne veut pas dire que je mésestime les uns ou les autres, que... Et ça, je le sais du fond de mon corps, dans mes fibres.
Est-ce que vous le sentez ou est-ce que vous le savez? C'est un savoir parce que vous connaissez l'histoire.
Je crois que ce sont les deux. Je crois que je le sens aussi bien parce que j'ai fait l'effort de le savoir. Mais on commence par le sentir. Quand j'ai senti ces premières odeurs d'orange lors d'un premier voyage adolescent en Espagne, le crottin d'âne, l'odeur du jasmin, des choses comme ça, je me dis mais d'où ça vient? D'où ça vient?
Vous savez quoi, je vais pas résister, je crois, à replonger avec vous dans une page de ce roman qu'on aime bien en sol majeur, donc dans l'épaisseur de la chair. Le narrateur qui vous ressemble, hein, comme deux gouttes d'eau, n'a même pas 10 ans.
Le pitchak, c'était le ballon des pauvres. J'y ai joué, moi aussi. Il fallait trouver une moitié de vieille chambre à air de vélo. Pas si facile, mais Filio, le marchand de cycles de la rue Chabrière, nous en donnait une de temps en temps. Puis la tailler en rondelles avec une paire de ciseaux, avant de les enfiler sur une ficelle comme pour un collier. En serrant au maximum, on obtenait une sorte de pelote souple qui permettait de jongler au pied, seul ou avec d'autres, en essayant de la maintenir en l'air le plus longtemps possible. Mes cousins, ou les petits arabes avec qui nous jouions au faubourg Thiers, transformaient cette chose en une balle capable de virevolter jusqu'à une demi-heure sans toucher terre. Moi, j'ai eu beau m'exercer en secret, je n'ai jamais réussi à taper dedans plus de 2 fois de suite. Je préférais m'asseoir dans un recoin de la cour et m'occuper à la fabrication d'une lanterne magique, je disais cinéma, qui absorbait toute mon existence.
Rajouter peut-être le bruit des casseroles que faisaient les pieds noirs en scandant Algérie française, hein, un son qui vous a sans doute traumatisé, Jean-Marie Blas de Robles. Mais est-ce que ça correspond un peu, cette carte sonore, à votre terre natale?
Ça correspond à un moment tragique de ma terre natale, à celui qui m'a le plus marqué, en fait, hein, parce que de mon enfance, que j'évoquais avec la petite lecture tout à l'heure, en Algérie, jusqu'à l'âge de 8 ans, je n'ai que des souvenirs heureux de vacances, de mer, de clarté solaire. Mais le moment du rapatriement, le moment des attentats, le moment où l'armée française défilait avec les automitrailleuses dans Sidi Bel Abbès, où on entendait à la fois ces explosions d'attentats, ces chants de la Légion, cette espèce de folie qui s'est emparée des gens à l'époque et que vous ressentez enfant d'une manière peut-être pire encore parce que vous n'y comprenez rien du tout. Et donc effectivement, ça évoque pour moi vraiment tout le malheur du monde.
On devine votre regard sur cette colonisation française dans ce pays qui fut le vôtre. Et vous avez une phrase que moi j'emporterai de ce roman. Donc c'est le narrateur qui parle toujours dans cette Algérie encore française et qui dit « Je vis dans une partie africaine de l'Empire français et je ne le sais pas ». À quel moment est-ce que vous avez commencé à le savoir ?
Je ne l'ai su... que lorsque j'ai eu l'âge de le savoir, 16, 17 ans, c'est-à-dire en France, en lisant Sartre, en lisant Camus, en me documentant sur cette Algérie française que tout le monde semblait regretter autour de moi, comme si tout le monde regrettait la colonisation, en fait, en se disant « Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? On nous a volé, on nous a pris notre pays, on nous a... » Et il ne suffisait pas de creuser bien profond pour découvrir en fait juste l'histoire de la colonisation depuis 1830 de l'Algérie et de s'apercevoir que c'était une spoliation de terre terrible.
Est-ce que ça a été un choc finalement, cette révélation ? Parce que c'est à la fois un mensonge d'État, enfin je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, et en même temps c'était une terre natale que vous perdiez.
C'était un choc. Moi je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir perdu ma terre natale à cette époque-là. J'ai eu l'impression d'être exilé toute ma vie. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir perdu ma terre natale. C'était pas assez, il n'y avait pas assez d'imprégnation, je dirais, mental. En revanche, et plus le temps passe et plus ça se vérifie, ce sentiment d'exil qui se traduit négativement par la conscience que je n'ai pas de terroir. Et souvent je vois des gens qui, je sais pas, qui sont, j'habite Orléans, il y a des vieux Orléanais, leur ville c'est Orléans, leur pays c'est la Loire, ils peuvent en partir, y revenir. Moi, je n'ai pas ça. Moi, c'est la Méditerranée tout entière qui joue ce rôle.
Et l'Atlas, peut-être, tout entier.
D'où l'Atlas aussi tout entier et le fait que je me sente tout simplement homme de la planète et que j'ai envie d'aller partout, de faire le tour de ma prison, comme disait Yourcenar.
Une dernière question, Jean-Marie Blas de Reblès, même si vous n'êtes pas du tout un militant. De rien, j'ai l'impression. C'est un homme libre, un peu prisonnier des eaux, quand même. Est-ce que vous pensez que ce dossier de la colonisation pèse d'une manière ou d'une autre sur nos enfants aujourd'hui, d'origine maghrébine notamment ?
J'en suis absolument persuadé et je crois qu'il n'est pas prêt de ne pas peser. Le dossier de la colonisation, c'est pas simplement celui de l'Algérie, c'est celui de la Tunisie, c'est celui du Maroc, c'est celui de la Libye, c'est celui de la Syrie, c'est celui du Liban, c'est celui... Quand vous faites le tour de toute la colonisation française ou européenne, sans même parler de la colonisation anglaise, vous comprenez que tous les troubles, toutes les guerres qui ont lieu encore aujourd'hui sont enracinées dans les résultats de ces colonisations successives, la façon dont les indépendances se sont produites, plus ou moins bien réalisées, etc., etc. On est vraiment toujours dans la continuation de cette horreur coloniale, de ce que j'appelle un forfait colonialiste, qui est inacceptable, qui est impardonnable, même si... Il n'y a pas à pardonner l'histoire, mais ça reste quelque chose d'inhumain. C'est l'inhumanité contre laquelle je me bats. Si je suis militant, c'est pour et vers l'humanité. Ce côté de, en latin on disait de inhumanitas. Être humain, c'était quelqu'un qui était autre chose qu'une bête, qu'un inhumain. Voilà mon combat.
En sol majeur, @rfi.fr.
À découvrir aux éditions Zulma le nouveau roman de Jean-Marie Blas de Robles, intitulé « Dans l'épaisseur de la chair ». Et si on faisait les fous, 2 minutes sur une plage brésilienne avec Chico Buarque. Je veux bien vous voir danser en maillot de bain à côté des filles, ça vous dit?
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito. Que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Duro peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast avec notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste, chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain pour une rediffusion autour d'Annick Kaïtesi-Josan. À demain.